Bonjour à toutes et tous. Bienvenue et nous sommes ravis de lancer donc cette nouvelle revue dans le paysage bordelais et français également.
À mon tour de vous remercier toutes et tous d'être là. On va présenter la revue, présenter sa philosophie, puis présenter le premier numéro. Au fond, répondre à la question pourquoi avons-nous décidé de traiter de la question de la ville et des discriminations. Pourquoi ce couple? Mais je vais laisser Johanna vous présenter l'esprit de la revue.
Donc, pour citer Naïma Charaï, travailler sur la lutte contre les discriminations dans le contexte actuel devient une nécessité. Au moment, en effet, où le rejet de l'autre est normalisé. Tout d'abord, les cahiers de la LCD, donc lutte contre les discriminations, c'est un mot fort, lutte. Hein. On n'est pas uniquement que dans le mot de prévention, mais bien dans la lutte. Sont nés du constat qu'aucune revue dédiée à cette question existait en France. Toutes celles consacrées à la lutte contre les discriminations étaient croisées à une autre thématique dans un champ particulier. C'était le cas et toujours le cas de la revue Diversité, École, anciennement École Intégration et maintenant Diversité. Quoi qu'il en soit, c'était forcément croisé avec un champ particulier. Celle-ci ne traite que de cette question en tant que telle et dans sa globalité. Nous avons également réuni autour de cette revue le triptyque association, recherche et politique publique afin d'articuler réflexion, analyse et également et surtout engagement et action concrète. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une revue descendante où la recherche explique et le terrain écoute, bien que le terrain n'est jamais hors recherche et inversement, hein, mais bien sur quelque chose qui se nourrit de la réflexion à l'action, également de l'action à la réflexion. Ensuite, nous avons voulu éviter l'aspect segmenté et peu pluridisciplinaire de la question. Concrètement, en privilégiant des numéros avec des approches thématiques transversales, afin de ne pas procéder par critères de discrimination, ni non plus par champ disciplinaire. Très souvent, et on le voit, hein, ça c'est un grand défaut en France, on agit par critères, c'est-à-dire on dit on est sur la question du genre, sur la question du sexe, sur la question de l'origine ou du handicap, mais on ne traite pas ces critères de manière simultanée. On va essayer de s'y tenir après. Pour exemple, le premier numéro qui traite des discriminations dans la ville permet d'aborder aussi bien la notion du handicap que de l'origine, du sexe ou de l'identité de genre. Et ce, à travers des auteurs de toutes les disciplines. Que ce soit, on le voit dans ce premier numéro, des auteurs qui viennent de la sociologie, de l'histoire, des sciences de l'éducation, mais également des mouvements militants. Il y a un très bel article de Jean Réville qui montre que cette revue s'adresse en effet à tout le monde et que le profil des contributeurs et des contributrices, comme celui des lecteurs et des lectrices, peut être multiple, à condition bien sûr de respecter les règles parfois strictes d'une revue que l'on veut exigeante. C'est important qu'elle soit exigeante, parce que la lutte contre les discriminations est souvent vue comme quelque chose, on va dire, de mineur, et souvent, donc, comme toute chose mineure, minorée. Donc, on la veut, malgré tout, exigeante pour que cette question soit prise au sérieux. Enfin, même si l'approche par discrimination mesure les privilèges et surtout les conséquences en termes d'injustice et de violence sur les individus, nous prenons en compte les inégalités sociales et les systèmes de domination qui les sous-tendent. Les discriminations sont envisagées d'un point de vue systémique et remises dans leur contexte environnemental et social. Pour nous, c'est quelque chose de primordial. Pour illustrer mon propos, on peut le voir avec les recherches qu'on effectue sur le harcèlement à l'école, par exemple, sur les 10% d'élèves victimes de harcèlement à l'école, une grande majorité le sont pour des motifs à caractère discriminatoire, principalement liés à l'apparence physique, l'origine, l'orientation sexuelle, le sexe et ou le genre. Avec des conséquences qui sont désastreuses pour les victimes, comme toute victime de discrimination, mais malgré tout, la capacité d'agir, l'empowerment, qui est quand même le grand mot actuellement, n'est pas la même en fonction du milieu socio-économique. C'est-à-dire que pour la même cause, avec les mêmes désastres, la capacité d'action n'est pas la même. C'est-à-dire que si mon enfant est victime de harcèlement à l'école et que j'ai des moyens socio-économiques importants, mes choix peuvent être quand même différents. J'aurai d'autres possibilités qui peuvent s'offrir à moi. Je pourrais mettre mon enfant dans le privé, jouer avec le jeu des options ou même déménager, ce qui est impossible à l'heure actuelle pour des familles avec le coût du bâti. C'est donc cette complexité que nous tenons à faire apparaître dans cette revue. Dans ce premier numéro, nous voyons donc que si la ville appartient davantage aux hommes qu'aux femmes, elle est avant tout hospitalière pour les publics majoritaires, laissant ainsi de côté les personnes en situation de handicap ou les pauvres, par exemple. Comme en témoignent les réactions violentes des habitants du 16e arrondissement devant l'éventuelle construction d'un centre d'hébergement pour des personnes SDF. On le voit à ce moment-là, c'est peut-être aussi ce qui peut nous faire aussi réfléchir sur le 22e critère qui correspond à la précarité sociale, qui pourra peut-être permettre, on ne le sait pas encore, davantage de contraintes au traitement inique de certains groupes majoritaires. Nous attendons avec impatience donc son décret d'application qui permettra de condamner, là pour la peine, les écoles qui bannissent l'accès à la cantine aux familles les plus démunies, parce que c'est le cas actuellement en France, mais aussi le refus d'accès aux soins pour les bénéficiaires de la CMU. Avant de laisser la parole à Arnaud Alessandrin, je vais donner quelques résultats concernant l'enquête, justement dans la ville, que nous avons menée avec Laetitia Franquet sur le harcèlement que subissent les femmes dans la ville, avec plus de 5200 réponses de femmes. Pour exemple, près de 85% des femmes ont connu des incidents ou des agressions à caractère sexiste ou sexuel. Je ne vais pas donner tous les exemples. Avec un chiffre sous-estimé, il faut quand même aussi le savoir, par la violence symbolique qui est, j'allais quand même pas rester 10 minutes sans citer Pierre Bourdieu, Arnaud est ravi, c'est-à-dire par le fait qu'on a intégré ce sexisme ordinaire et donc par conséquent, on a banalisé le phénomène. Mais pour autant, c'est ça que va montrer aussi cette étude, c'est que le ressenti et la nature du harcèlement va différer selon les femmes. Et là, on rentre dans le champ des discriminations. C'est-à-dire les femmes ouvrières et employées se sentent bien moins en sécurité que les femmes cadres. On passe de 40% à 55%. Elles subissent plus d'insultes concernant leur apparence physique. Donc là, on est également sur l'ordre de l'insulte et de l'injure. Il y a le sexisme qui traverse donc toutes les femmes, mais pas de la même manière selon également le milieu social et les critères de discrimination. Par exemple, une femme d'origine nord-africaine s'est entendue dire « Casse-toi, sale arabe, on t'a jamais appris qu'il fallait laisser passer en tentant de monter dans le tram ici. » Voilà, c'est la réalité. Et dans l'approche des discriminations, on voit donc toute cette approche qui peut différer en fonction de l'origine sociale et également des critères de discrimination et où, j'ai envie de dire. Le numéro 2 de l'école, qui est sur l'école et l'immigration, montrera également cette complexité avec, par exemple, un traité de la stigmatisation des lycées professionnels en France. Je vais laisser la parole à Arnaud, mais avant ça, je voudrais remercier particulièrement le CGET, le CEGET, avec Frédéric Alain, qui nous a soutenus pour cette revue, Yann Leformel, qu'on remercie, qui fait également partie du comité d'orientation. Naïma Charaï, les éditions L'Armatan, le comité d'orientation, le comité scientifique et les contributeurs et contributrices. Et puis également Mola pour nous permettre d'être ici ce soir et puis également pour la large diffusion de cette revue. Je laisse la parole à Arnaud.
Merci beaucoup Johanna, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Alors, à mon tour de faire un remerciement, c'est un remerciement que je fais souvent en off. Je voudrais remercier Johanna, parce que c'est un véritable honneur de travailler avec elle. Elle me permet de ne pas être hémiplégique, car bien souvent, j'entrevois les discriminations comme quelque chose d'intime, comme quelque chose de subjectif, et à chaque fois, elle me rappelle à des éléments de contexte nécessaires, sans trop, et je crois que c'est ce partage, au fond, entre ce qui touche à l'intime, ce qui touche au plus fort d'entre soi, et puis ce qui touche aussi au plus systémique, au plus récurrent, qui fait que cette revue fonctionne et que notre appréhension des discriminations est la plus large possible. Johanna l'a dit, je ne vais pas revenir dessus, mais au vu de l'actualité, il nous semble que la question des discriminations est au cœur des problématiques actuelles. En termes d'identité, car la question des discriminations est fortement perfusée à la reconnaissance des identités individuelles, mais aussi en termes d'inégalité, car la question des discriminations, on va le voir, ne subsume pas la question des inégalités. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question du sujet, car le sujet contemporain, me semble-t-il, est un individu qui est passé progressivement d'un sentiment fort d'exploitation à un sentiment de discrimination. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit du temps est désormais marqué par cette notion de discrimination. Les individus sont devenus des sujets de droit, et cela se lie au niveau mondial comme au niveau local. Et ces individus en appellent à une reconnaissance. La question de la discrimination, elle est immédiatement portée en résonance avec la question de la reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est un mouvement qui apparaît de manière assez paradoxale. Alors, en fait, c'est peut-être pas un paradoxe, mais plutôt une combinatoire. Car les individus demandent une reconnaissance en termes de droit universel. Je veux être reconnu en tant qu'individu appartenant à l'humanité. Et en même temps, les individus réclament une reconnaissance liée à des droits spécifiques et à leur identité spécifique. Et c'est dans cette combinatoire de reconnaissance qu'il faut entrevoir aujourd'hui la question des discriminations. Alors, je disais que ce n'était pas vraiment un paradoxe, mais plutôt une combinaison de mouvements en termes de reconnaissance, car à cet endroit précis, la reconnaissance nous permet de voir ce qui relève d'une reconnaissance pour soi, de notre propre identité, mais aussi par autrui, que la société ou que autrui puisse nous dire « je te reconnais comme victime, je te reconnais comme discriminé, je te reconnais comme stigmatisé ». Cette reconnaissance, elle met en avant aussi un principe de réhabilitation. Je te reconnais comme victime, pour autant suis-je réhabilité dans mon identité meurtrie comme victime ? Et le glissement de la reconnaissance potentielle, je peux potentiellement être reconnu comme victime de discrimination, à la reconnaissance réelle, le juge me reconnaît comme victime, à la réhabilitation de mon identité, ce n'est absolument pas un passage, un glissement évident. La lutte contre les discriminations ainsi prononcées, en réalité, elle embrasse les ambivalences du monde contemporain, puisqu'elle permet simultanément de parler, et Johanna l'a très bien dit, donc je ne vais pas revenir dessus, sur les questions de domination, notamment de domination systémique, mais elle permet aussi de parler de subjectivité. Qu'est-ce que ça fait aux gens ? De quelle manière une discrimination marque le corps ? Sur des éléments qui parfois sont invisibles, impalpables. Et puis, troisième lecture des discriminations, quelles sont les stratégies que l'on met en œuvre individuellement comme collectivement pour parer aux discriminations, pour faire en sorte d'avoir une vie vivable au-delà des discriminations. Je l'ai dit, la question des discriminations, elle ne remplace pas la question des inégalités, elle ne la subsume pas. Au contraire, aujourd'hui, elle vient la renforcer. C'est-à-dire que la question des inégalités, la question des discriminations qui, parfois, sont entrevues de manière complètement antagoniste, la philosophie de cette revue veut que nous l'abordions de manière complémentaire. Les inégalités concourent à des sentiments de discrimination, les discriminations aboutissent parfois à des situations d'inégalité. Pourquoi avons-nous choisi la ville comme théâtre premier pour aborder cette question des discriminations ? Car au fond, la ville, mais la sociologie l'a dit de manière assez classique et avant nous, donc on n'a pas innové de ce point de vue, la ville, elle rejoue les paradoxes d'une société contemporaine, puisque la ville est un lieu à la fois de fixité, d'ancrage. C'est mon quartier, c'est ma rue, je connais bien ces lieux. Mais la ville, c'est aussi un lieu de flux, c'est aussi un lieu de non-lieu, un lieu où on passe. La question de la discrimination dans la ville, elle pose la question du vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ce n'est pas simplement le vivre avec, mais c'est aussi le vivre à côté, dans tous les antagonismes que cela comporte, avec cette question de « je connais la personne qui est à mes côtés » et en même temps, je ne suis pas censé connaître l'ensemble des personnes qui composent le flux de la ville, le flux de l'urbain. Johanna a prononcé, de mon point de vue, le mot clé de cette affaire, qui est la question de l'hospitalité. Ça signifie quoi, la question de l'hospitalité ? Il est assez évident, je pense que vous l'entendez également, l'hôte, la personne hospitalière, est forcément étrangère à celle ou à celui qui est reçu. C'est-à-dire que l'altérité dans la ville, accueillir autrui dans la ville, relève d'une altérité, d'une opposition fondamentale. Première, la ville qui inclut, c'est une ville qui connaît cet antagonisme. La personne qui est reçue, elle porte en elle quelque chose de la crainte, quelque chose de la peur, quelque chose de la peur liée à la contamination. Avec deux volets de la contamination, la première contamination, c'est la contamination du point de vue sanitaire. Et d'ailleurs, les personnes discriminées sont souvent des personnes porteuses de stigmates qui parfois vont jusqu'à l'ordre du dégoût. Vous savez, lorsqu'on est dégoûté, on ne touche pas la personne. Le dégoût étant prioritairement un dégoût de contact. Je ne vois pas, je ne touche pas, je n'entre pas en contact avec la personne. Et on entend d'ailleurs la notion sanitaire de l'hospitalier avec ce qui relève des phénomènes hospitalier au sens de l'hôpital. Plus probablement, aujourd'hui, la question de la contamination, elle est culturelle. Dans une logique qui concourt à un tri, à une sélection entre les personnes et les figures qui pourraient potentiellement vivre avec nous et les personnes à exclure, les personnes qui peuvent faire corps avec la ville et les personnes dont le corps urbain demande l'exclusion. La question des prostituées ou des Roms, me semble-t-il, sont des questions prégnantes à cet égard. Je finirai sur ça, mais la question de la ville et des discriminations porte en son cœur une sorte de tension. Au fond, la personne qui est stigmatisée, la personne qui est discriminée, la personne qui est dégoûtante, la personne qui est mise à l'écart, ce n'est pas la personne qui est loin. Ce n'est pas la personne qui est en périphérie de la ville. La personne qui est dans les banlieues, au banc du lieu, c'est plus probablement, en réalité, la personne qui est au plus proche de nous. Parce que la ville, elle est ce théâtre de rencontres inattendues entre ce qui est de l'ordre de l'habituel, ce qui est de l'ordre du rassurant, et ce qui est de l'ordre de l'inhabituel, étant donné, aujourd'hui, la forme mondialisée que prennent nos villes, et plus particulièrement nos centres-villes. C'est dans cette tension, dans ces paradoxes, qu'on a voulu introduire au fond la question des discriminations sur ce théâtre qu'est la ville et qui rejoue, là encore, l'ensemble des thématiques des discriminations dont Johanna a parlé. Peut-être qu'on pourrait rajouter quelque chose dans cette revue. Nous avons donné quelques chiffres d'une enquête réalisée localement sur les discriminations et il apparaît de manière assez frontale, assez totale, que les discriminations ne sont pas des petites expériences isolées. Oui. Quand 51% des habitantes et des habitants d'une ville considèrent sur les 12 derniers mois qu'ils et elles ont été soit victimes de discrimination, soit en situation d'être discriminés, on ne peut plus considérer que les discriminations sont des phénomènes marginaux. Non, ce sont des phénomènes globaux, massifs, qui potentiellement touchent tout le monde, même si statistiquement, ils touchent bien souvent les mêmes personnes.
Si je peux mettre un petit trait d'humour, ils touchent moins souvent l'homme blanc, riche, hétérosexuel, valide, parisien quand même. Hein.
Je m'appelle Naïma Charaï, je suis conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine, en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis par ailleurs la suppléante de Noël Mamère et j'ai présidé donc, sur nomination du président de la République, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Je travaille sur les questions de prévention et de lutte contre les discriminations depuis maintenant un certain nombre d'années. Et c'est vrai que lorsque j'ai été élue la première fois, c'était, me semble-t-il, en 2004, je me suis très vite en fait saisie de ce sujet-là qui était très peu abordé. À l'époque, les critères de discrimination, il n'y en avait pas 22 comme aujourd'hui, il y en avait, je crois, 18. Et très vite, on s'est attelé au regard des compétences régionales, le développement économique, la formation professionnelle, l'apprentissage, la culture, l'éducation, de mettre en place une politique publique qui irrigue les politiques de l'égalité, de créer une politique de l'égalité. Ça n'a pas été sans difficulté, puisque nous sommes la première région, par exemple, à avoir mis en place le CV anonyme pour permettre aux personnes discriminées de pouvoir accéder à un entretien d'embauche. Je ne sais pas si vous connaissez les dernières études qui ont été publiées. Lorsqu'on a un nom à consonance étrangère, et notamment du Maghreb ou d'Afrique noire, eh bien, nous avons 4 fois moins de chances d'accéder à un entretien d'embauche. Donc, on n'a jamais considéré dans la collectivité locale que c'était l'alpha et l'oméga d'une politique de l'égalité, mais simplement un outil qui permet à des publics qui s'interdisaient de postuler sur une collectivité locale, d'intégrer l'administration régionale. On l'a mis en place et expérimenté en 2007, donc on va le généraliser maintenant sur la Nouvelle-Aquitaine. Le recul que nous avons, c'est qu'en effet, dans les recrutements, lorsque les personnes arrivent en entretien d'embauche, eh bien, nous avons davantage de femmes qui postulent notamment sur des catégories A. Nous avons aussi des habitants des quartiers populaires qui s'interdisaient de postuler dans la nouvelle collectivité, de pouvoir accéder à un entretien d'embauche. Mais il y a aussi, on a levé aussi le frein aux discriminations à l'âge. Donc, et ça, c'est aussi un recul de quelques années qui nous permet de dire cela. Par ailleurs, j'ai présidé donc, l'Agence nationale pour la cohésion sociale, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est aujourd'hui le Commissariat général à l'égalité des territoires. C'est l'agence dédiée pour les quartiers populaires et notamment les habitants des quartiers populaires. Les rapports successifs de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, ça a un peu changé de dénomination, mais indiquent que 37% de ces habitants vivent sous le seuil de pauvreté, qu'un jeune sur deux n'a pas accès à l'emploi, qu'à compétences égales et à qualifications égales, lorsque vous habitez à Villiers-le-Bel ou en Seine-Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis, eh bien, vous avez davantage de difficultés à accéder à l'emploi. Les politiques qui ont été menées, en lien avec bien évidemment les services de l'État, donc permettent de prévenir un peu les discriminations. Un nouveau critère dont la loi a été intégrée, notamment une discrimination liée à la zone géographique et à la zone d'habitation. Donc un certain nombre de politiques ont été menées, mais pas suffisamment de mon point de vue. C'est vrai que moi j'ai réclamé pendant de très très nombreuses années le décret d'application du CV anonyme pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et c'est vrai que ça a été une difficulté pour moi à la tête de cette agence d'essayer de convaincre ma famille politique qu'il y avait nécessité à mettre en place ce type d'outil. Une autre difficulté aussi à laquelle j'ai été confrontée, et les discriminations, elles sont liées au logement, à l'emploi, à la formation, à un certain nombre de choses, mais aussi il y a des discriminations liées au faciès. Donc, vous le savez, plusieurs études aussi le démontrent. Lorsqu'on a un faciès du Maghreb ou d'Afrique noire, on a, je crois, c'est 20% de plus de chances d'être contrôlé par les services de police. De risque d'être contrôlé par les services de police. Et il y a un collectif qui s'est monté en banlieue qui s'appelle Stop au contrôle aux faciès, qui demande les récépissés, que la police puisse délivrer un récépissé lorsqu'il y a un contrôle de police pour avoir les éléments du contrôle. D'abord, de pouvoir identifier aussi le policier et permettre de saisir en fait les services nécessaires le cas échéant. Donc c'est quelque chose... pour une mesure pour laquelle j'ai beaucoup milité. On n'a pas obtenu gain de cause. J'ai signé une tribune il y a maintenant quelques mois de cela, ou quelques années, même 2 ans peut-être, dans Libération, où j'essayais en tout cas de dire ce qu'il serait nécessaire de faire dans le cadre de la politique de la ville pour prévenir et lutter contre les discriminations. Et le récépissé au contrôle au faciès était pour moi un outil important pour aussi rétablir la confiance entre les institutions républicaines que sont la police et la gendarmerie et les habitants des quartiers populaires. Lorsque j'ai publié cette tribune, c'est vrai que j'étais un peu surprise d'être réveillée à 7h30 du matin par le ministre de l'Intérieur. Donc, me disant que quand même, je ne pouvais pas tout à fait dire cela, qu'il y avait des choses qui avaient été faites, notamment sur les numéros de matricule et les caméras embarquées qui permettaient d'aller plus loin sur la relation de confiance entre la police et les jeunes. Et c'est vrai que j'étais un peu surprise de son appel et je lui ai indiqué qu'au-delà des caméras embarquées, du numéro de matricule, des pays anglo-saxons avaient mis en place le récépissé au contrôle au faciès et ça avait permis, en tout cas, d'apaiser les tensions entre les populations des quartiers et notamment la police, parce que chaque fois qu'il y a des incidents dans les quartiers populaires, généralement, c'est soit un contrôle et ça dérape assez vite. Et très vite, on a des révoltes qui se mettent en place dans les quartiers. Et il me semblait que c'était un bon outil d'apaisement social. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire, en tout cas de l'action que je mène à la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons lundi organisé les premières assises de l'égalité et de la solidarité, et prioritairement a été abordée la question de la lutte contre les discriminations, notamment liées à l'origine, parce que nous avons aussi une difficulté, nous, responsables politiques, lorsqu'on aborde en fait ces sujets assez vite, avec les 22 critères, assez vite, pas par esprit chagrin, mais très vite, en fait, on se saisit de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, on se saisit de la question du handicap, on se saisit d'autres critères, en fait, de discrimination, et très vite, les questions liées à l'origine ethnique réelle ou supposée est mise un peu de côté. Donc, et notre responsabilité, ma responsabilité, c'était aussi, dans le cadre de la redéfinition de la politique publique, eh bien, de prendre en compte cette problématique-là. Vous le savez, les attentats de 2015, de 2016, ont tendu l'ensemble en fait, de la société. Et on a une responsabilité aussi que de permettre davantage en fait, d'égalité républicaine pour essayer de trouver les modalités du vivre ensemble qui nous manque beaucoup aujourd'hui et très cruellement.
On vous remercie profondément toutes et tous.
Merci.